Chapitre 2. Bonjour mon père, que me voulez-vous donc si matin ? Après ces paroles, jetées comme la ritournelle de l'air qu'elle chantait, elle embrassa le comte, non pas avec cette tendresse familière qui rend le sentiment filial chose si douce, mais avec l'insouciante légèreté d'une maîtresse sûre de toujours plaire quoi qu'elle fasse. « Ma chère enfant, dit gravement Monsieur de Fontaine, je t'ai fait venir pour causer très sérieusement avec toi sur ton avenir, la nécessité où tu es en ce moment de choisir un mari de manière à prendre ton bonheur durable. »« Mon bon père, répondit Émilie en employant les sons les plus caressants de sa voix pour l'interrompre, il me semble que l'armistice que nous avons conclu relativement à mes prétendus n'est pas encore expiré. Émilie, cessons aujourd'hui de badiner sur un sujet si important. Depuis quelque temps, les efforts de ceux qui t'aiment véritablement, ma chère enfant, se réunissent pour te procurer un établissement convenable et ce serait être coupable d'ingratitude que d'accueillir légèrement les marques d'intérêt que je ne suis pas seul à te prodiguer. En entendant ces paroles, et après avoir lancé un regard malicieusement investigateur sur les meubles du cabinet paternel, la jeune fille alla prendre celui des fauteuils qui paraissait avoir le moins servi au solliciteur, la porta elle-même de l'autre côté de la cheminée, de manière à se placer en face de son père, prit une attitude si grave qu'il était impossible de n'y pas voir les traces d'une moquerie, et se croisa les bras sur la riche garniture d'une pèlerine à la neige dont les nombreuses ruches de tulle furent impitoyablement froissées. Après avoir regardé de côté, en riant, la figure soucieuse de son vieux père, elle rompit le silence. « Mais je ne vous ai jamais entendu dire, mon cher père, que le gouvernement fit ses communications en robe de chambre. Mais, ajouta-t-elle en souriant, n'importe, le peuple ne doit pas être difficile. Voyons donc vos projets de loi et vos présentations officielles. Je n'aurai pas toujours la facilité de vous en faire, jeune folle. Écoute, Émilie, mon intention n'est pas de compromettre plus longtemps mon caractère, qui est une partie de la fortune de mes enfants, à recruter ce régiment de danseurs que tu mets en déroute à chaque printemps. Déjà, tu as été la cause innocente de bien des brouilleries dangereuses avec certaines familles. J'espère que tu comprendras mieux aujourd'hui les difficultés de ta position et de la nôtre. Tu as 20 ans, ma fille, et voici près de 3 ans que tu devrais être mariée. Tes frères, tes deux sœurs sont tous établis richement et heureusement. Mais, mon enfant, les dépenses que nous ont suscitées ces mariages et le train de maison que tu fais tenir à ta mère ont absorbé tellement nos revenus qu'à peine pourrais-je te donner 100 000 francs de dot. Dès aujourd'hui, je veux m'occuper du sort à venir de ta mère qui ne doit pas être sacrifiée à ses enfants. « Émilie, si je venais à manquer à ma famille, Madame de Fontaine ne saurait être à la merci de personne et doit continuer à jouir de l'aisance par laquelle j'ai récompensé trop tard son dévouement à mes malheurs. Tu vois, mon enfant, que la faiblesse de ta dot ne saurait être en harmonie avec tes idées de grandeur. Encore sera-ce un sacrifice que je n'ai fait pour aucun autre de mes enfants, mais ils se sont généreusement accordés à ne pas se prévaloir un jour de l'avantage que nous ferons à un enfant trop chéri. Oh, dans leur position, dit Émilie en agitant la tête avec ironie. Ma fille, ne dépréciez jamais ainsi ceux qui vous aiment. Sachez qu'il n'y a que les pauvres de généreux. Les riches ont toujours d'excellentes raisons pour ne pas abandonner 20 000 francs à un parent. Eh bien, ne boude pas, mon enfant, et parle raisonnablement. Parmi les jeunes gens à marier, n'as-tu pas remarqué monsieur de Manerville? Oh, il dit the au lieu de je. Il regarde toujours son pied parce qu'il le croit petit et il se mire. Oh, d'ailleurs, il est blond, j'aime pas les blonds. Eh bien, monsieur de Beaudenord, oh, il n'est pas noble, il est mal fait et gros. À la vérité, il est brun. Il faudrait que ces deux messieurs s'entendissent pour réunir leur fortune et que le premier donnât son corps et son nom au second qui garderait ses cheveux. Et alors, peut-être. Et qu'as-tu à dire contre monsieur de Rastignac? Oh, il est devenu presque banquier, fit-elle malicieusement. Et le vicomte de Portenduère, notre parent? Bon enfant qui danse mal, et d'ailleurs sans fortune. Enfin, mon père, ces gens-là n'ont pas de titre. Je veux être au moins comtesse, comme l'est ma mère. Tu n'as donc vu personne cet hiver qui... Non, mon père. Mais que veux-tu donc? Le fils d'un pair de France? Ma fille, vous êtes folle, dit monsieur de Fontaine en se levant. Mais tout à coup, il leva les yeux au ciel, sembla puiser une nouvelle dose de résignation dans une pensée religieuse, puis jetant un regard de pitié paternelle sur son enfant, qui devint ému, il lui prit la main, la serra et lui dit avec attendrissement: Dieu m'en est témoin, pauvre créature égarée. J'ai consciencieusement rempli mes devoirs de père envers toi, mais que dis-tu? Consciencieusement, avec amour, mon Émilie. Oui, Dieu le sait, cet hiver, j'ai amené près de toi plus d'un honnête homme dont les qualités, les mœurs, le caractère m'étaient connus, et tous ont paru dignes de toi. Mon enfant, ma tâche est remplie. D'aujourd'hui, je te rends l'arbitre de ton sort. Me trouvant heureux et malheureux tout ensemble de me voir déchargé de la plus lourde des obligations paternelles. Je ne sais pas si longtemps encore tu entendras une voix qui, par malheur, n'a jamais été sévère. Mais souviens-toi que le bonheur conjugal ne se fonde pas tant sur les qualités brillantes et sur la fortune que sur une estime réciproque. Cette félicité est de sa nature modeste et sans éclat. Va, ma fille, mon aveu est acquis à celui que tu me présenteras pour gendre. Mais si tu devenais malheureuse, songe que tu n'auras pas le droit d'accuser ton père. Je ne me refuserai pas à faire des démarches et à t'aider. Seulement, que ton choix soit sérieux et définitif. Je ne compromettrai pas deux fois le respect dû à mes cheveux blancs. L'affection que lui témoignait son père et l'accent solennel qu'il mit à son onctueuse allocution touchèrent vivement Mademoiselle de Fontaine. Mais elle dissimula son attendrissement, sauta sur les genoux du comte qui s'était assis tout tremblant encore, lui fit des caresses les plus douces et le câlina avec tant de grâce que le front du vieillard se dérida. Quand Émilie jugea que son père était remis de sa pénible émotion, elle lui dit à voix basse: Je vous remercie bien de votre gracieuse attention, mon cher père. Vous avez arrangé votre appartement pour recevoir votre fille chérie. Ah, vous ne saviez peut-être pas la trouver si folle et si rebelle. Mais mon père, est-il donc bien difficile d'épouser un pair de France? Vous prétendiez qu'on en faisait par douzaine. Ah, du moins, vous ne me refuserez pas des conseils. Non, mon pauvre enfant, non. Et je te crierai plus d'une fois, prends garde. Songe donc que la pairie est un ressort trop nouveau dans notre gouvernementabilité, comme disait le feu roi, pour que les pairs puissent posséder de grandes fortunes. Ceux qui sont riches veulent le devenir encore plus. Le plus opulent de tous les membres de notre pairie n'a pas la moitié du revenu que possède le moins riche lord de la chambre haute en Angleterre. Or, les pairs de France chercheront tous de riches héritières pour leurs fils, n'importe où elles se trouveront. La nécessité où ils sont tous de faire des mariages d'argent durera plus de 2 siècles. Il est possible qu'en attendant l'heureux hasard que tu désires, recherche qui peut te couper des plus belles années et tes charmes, car on s'épouse considérablement par amour dans notre siècle. Tes charmes, dis-je, opèrent un prodige. Lorsque l'expérience se cache sous un visage aussi frais que le tien, l'on peut en espérer des merveilles. N'as-tu pas d'abord la facilité de reconnaître les vertus dans le plus ou le moins de volume que prennent les corps? Ce n'est pas un petit mérite. Aussi n'ai-je pas besoin de prévenir une personne aussi sage que toi de toutes les difficultés de l'entreprise. Je suis certain que tu ne supposeras jamais un inconnu du bon sens en lui voyant une figure flatteuse ou des vertus en lui trouvant une jolie tournure. Enfin, je suis parfaitement de ton avis sur l'obligation dans laquelle sont tous les fils de père d'avoir un air à eux et des manières tout à fait distinctives. Quoique aujourd'hui rien ne marque le haut rang, ces jeunes gens auront pour toi peut-être un je ne sais quoi qui te les révélera. D'ailleurs, tu tiens ton cœur en bride comme un bon cavalier, certain de ne pas laisser brancher son coursier. Allez, ma fille, bonne chance. Mais tu te moques de moi, mon père. Eh bien, je te déclare que j'irai plutôt mourir au couvent de Mademoiselle de Condé que ne pas être la femme d'un pair de France. Elle s'échappa des bras de son père, et fière d'être sa maîtresse, elle s'en alla en chantant l'air de Carra non dubitare du Matrimonio Secreto. Par hasard, la famille fêtait ce jour-là l'anniversaire d'une fête domestique. Au dessert, Madame Plana, la femme du receveur général et l'aînée d'Émilie, parla assez hautement d'un jeune Américain, possesseur d'une immense fortune, qui, devenu passionnément épris de sa sœur, lui avait fait des propositions extrêmement brillantes. C'est un banquier, je crois, dit négligemment Émilie. Je n'aime pas les gens de finance. Mais, Émilie, répondit le baron de Villaine, le mari de la seconde sœur de Mademoiselle de Fontaine, vous n'aimez pas non plus la magistrature, de manière que je ne vois pas trop si vous repoussez les propriétaires non titrés, dans quelle classe vous choisirez un mari. Surtout, Émilie, avec ton système de maigreur, ajouta le lieutenant général. Mais je sais, répondit la jeune fille, ce qu'il me faut. Ma sœur veut un grand nom, dit la baronne de Fontaine, et 100 000 livres de rente, pas monsieur de Marsay, par exemple. Je sais, ma chère sœur, reprit Émilie, que je ne ferai pas un sot mariage comme j'en ai tant vu faire. D'ailleurs, pour éviter ces discussions nuptiales, je déclare que je regarderai comme les ennemis de mon repos ceux qui me parleront de mon mariage. Un oncle d'Émilie, un vice-amiral, dont la fortune venait de s'augmenter d'une 20 000 livres de rente par suite de la loi d'indemnité, vieillard septuagénaire en possession de dire de dures vérités à sa petite nièce de laquelle il raffolait, s'écria pour dissiper l'aigreur de cette conversation. Mais ne tourmentez donc pas ma pauvre Émilie. Ne voyez-vous pas qu'elle attend la majorité du duc de Bordeaux? Un rire universel accueillit la plaisanterie du vieillard. Oh, prenez garde que je ne vous épouse, vieux fou! Repartit la jeune fille, dont les dernières paroles furent heureusement étouffées par le bruit. Mes enfants, dit madame de Fontaine pour adoucir cette impertinence, Émilie, oh, de même que vous tous, ne prendra conseil que de sa mère. Non, mon Dieu, non, 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 je n'écouterai que moi, dans une affaire qui ne regarde que moi, dit fort distinctement mademoiselle de Fontaine. Tous les regards se portèrent alors sur le chef de la famille. Chacun semblait être curieux de voir comment il allait s'y prendre pour maintenir sa dignité. Non seulement le véritable vénérable Vendéen jouissait d'une grande considération dans le monde, mais encore, plus heureux que bien des pères, il était apprécié par sa famille dont tous les membres avaient su reconnaître les qualités solides qui lui servaient à faire la fortune des siens. Aussi était-il entouré de ce profond respect que témoignent les familles anglaises et quelques maisons aristocratiques du continent aux représentants de l'arbre généalogique. Il s'établit un profond silence et les yeux des convives se portèrent alternativement sur la figure boudeuse et altière de l'enfant gâté et sur les visages sévères de monsieur et de madame de Fontaine. J'ai laissé ma fille Émilie maîtresse de son sort, fut la réponse que laissa tomber le comte d'un son de voix profond. Les parents et les convives regardèrent alors mademoiselle de Fontaine avec une curiosité mêlée de pitié. Cette parole semblait annoncer que la bonté paternelle s'était lassée de lutter contre un caractère que la famille savait être incorrigible. Les gendres murmurèrent et les frères lancèrent à leurs femmes des sourires moqueurs. Dès ce moment, chacun cessa de s'intéresser au mariage de l'orgueilleuse fille. Son vieil oncle fut le seul qui, en sa qualité d'ancien marin, osa courir des bordées avec elle et essuyer ses boutades sans être jamais embarrassé de lui rendre feu pour feu. Quand la belle saison fut venue après le vote du budget, cette famille, véritable modèle des familles parlementaires de l'autre bord de la Manche, qui ont un pied dans toutes les administrations et 10 voix aux communes, s'envola comme une nichée d'oiseaux vers les beaux sites d'Aulnay, d'Antony et de Châtenay. L'opulent receveur général avait récemment acheté dans ces parages une maison de campagne pour sa femme qui ne restait à Paris que pendant les sessions. Quoique la belle Émilie méprisât la roture, ce sentiment n'allait pas jusqu'à dédaigner les avantages de la fortune amassée par les bourgeois. Elle accompagna donc sa sœur à sa villa somptueuse, moins par amitié pour les personnes de sa famille qui s'y réfugièrent, que parce que le bon ton ordonne impérieusement à toute femme qui se respecte d'abandonner Paris pendant l'été. Les vertes campagnes de Sceaux remplissaient admirablement bien les conditions exigées par le bon ton et le devoir des charges publiques. Comme il est un peu douteux que la réputation du bal champêtre de Sceaux ait jamais dépassé l'enceinte du département de la Seine, il est nécessaire de donner quelques détails sur cette fête hebdomadaire qui, par son importance, menaçait alors de devenir une institution. Les environs de la petite ville de Sceaux jouissent d'une renommée due à des sites qui passent pour être ravissants. Peut-être sont-ils fort ordinaires et ne doivent-ils leur célébrité qu'à la stupidité des bourgeois de Paris, qui, au sortir des abîmes de moellons où ils sont ensevelis, seraient disposés à admirer les plaines de la Beauce. Cependant, les poétiques ombrages d'Aulnay, les collines d'Antony et la vallée de Bièvre, étant habitées par quelques artistes qui ont voyagé, par des étrangers, gens fort difficiles, et par nombre de jolies femmes qui ne manquent pas de goût, il est à croire que les Parisiens ont raison. Mais Sceaux possède un autre attrait non moins puissant sur le Parisien. Au milieu d'un jardin d'où se découvrent de délicieux aspects, se trouve une immense rotonde ouverte de toutes parts, dont le dôme aussi léger que vaste est soutenu par d'élégants piliers. Ce dais champêtre protège une salle de danse. Il est rare que les propriétaires les plus collets montés du voisinage n'émigrent pas une fois ou deux pendant la saison vers ce palais de la Terpsichore villageoise, soit en cavalcade brillante, soit dans ses élégantes et légères voitures qui saupoudrent de poussière les piétons philosophes. L'espoir de rencontrer là quelques femmes du beau monde et d'être vues par elles, l'espoir, moins souvent trompé, d'y voir de jeunes paysannes aussi rusées que des juges, fait accourir le dimanche au bal de Sceaux de nombreux essaims de clercs d'avoué, de disciples d'Esculape et de jeunes gens dont le teint blanc et la fraîcheur sont entretenus par l'air humide des arrière-boutiques parisiennes. Aussi, bon nombre de mariages bourgeois se sont-ils ébauchés au son de l'orchestre qui occupe le centre de cette salle circulaire. Si le toit pouvait parler, que d'amour ne raconterait-il pas? Cette intéressante mêlée rend le bal de Sceaux plus piquant que ne le sont deux ou trois autres bals des environs de Paris, sur lesquels sa rotonde, la beauté du site et les agréments de son jardin lui donnent d'incontestables avantages. Émilie, la première, manifesta le désir d'aller faire peuple à ce joyeux bal de l'arrondissement, en se promettant un énorme plaisir à se trouver au milieu de cette assemblée. On s'étonna de son désir d'errer au sein d'une telle cohue. Mais l'incognito n'est-il pas pour les grands une très vive jouissance? Mademoiselle de Fontaine se plaisait à se figurer toutes ces tournures citadines. Elle se voyait laissant dans plus d'un cœur bourgeois le souvenir d'un regard et d'un sourire enchanteur, riait déjà des danseuses à prétention et taillait ses crayons pour les scènes avec lesquelles elle comptait enrichir les pages de son album satirique. Le dimanche n'arriva jamais assez tôt au gré de son impatience. La société du pavillon Planat se mit en route à pied afin de ne pas commettre d'indiscrétion sur le rang des personnages qui voulaient honorer le bal de leur présence. On avait dîné de bonne heure. Enfin, le mois de mai favorisa cette escapade aristocratique par la plus belle de ses soirées. Mademoiselle de Fontaine fut toute surprise de trouver, sous la rotonde, quelques quadrilles composées de personnes qui paraissaient appartenir à la bonne compagnie. Elle vit bien, ça et là, quelques jeunes gens qui semblait avoir employé les économies d'un mois pour briller pendant une journée, et reconnut plusieurs couples dont la joie trop franche n'accusait rien de conjugal, mais elle n'eut qu'à glaner au lieu de récolter. Elle s'étonna de voir le plaisir habillé de percale ressembler si fort au plaisir vêtu de satin, et la bourgeoise danser avec autant de grâce et quelquefois mieux que de danser la noblesse. La plupart des toilettes étaient simples et bien portées. Ce qui, dans cette assemblée, représentait les suzerains du territoire, c'est-à-dire les paysans, se tenaient dans leur coin avec une incroyable politesse. Il fallut même à Mademoiselle Émilie une certaine étude des divers éléments qui composaient cette réunion avant de pouvoir y trouver un sujet de plaisanterie. Mais elle n'eut ni le temps de se livrer à ses malicieuses critiques, ni le loisir d'entendre beaucoup de ses propos saillants que les caricaturistes recueillent avec joie. L'orgueilleuse créature rencontra subitement dans ce vaste champ une fleur, la métaphore de saison, dont l'éclat et les couleurs agirent sur son imagination avec les prestiges d'une nouveauté. Il nous arrive souvent de regarder une robe, une tenture, un papier blanc avec assez de distraction pour n'y pas apercevoir sur le champ une tache ou quelques points brillants qui, plus tard, frappent tout à coup notre œil comme s'ils y survenaient à l'instant seulement, nous les voyons. Par une espèce de phénomène moral assez semblable à celui-là, Mademoiselle de Fontaine reconnut dans un jeune homme le type des perfections extérieures qu'elle rêvait depuis si longtemps. Assise sur une de ces chaises grossières qui décrivaient l'enceinte obligée de la salle, elle s'était placée à l'extrémité du groupe formé par sa famille afin de pouvoir se lever ou s'avancer suivant ses fantaisies en se comportant avec les vivants tableaux et les groupes offerts par cette salle comme à l'exposition du musée. Elle braquait impertinemment son lorgnon sur une personne qui se trouvait à deux pas d'elle et faisait ses réflexions comme si elle eût critiqué ou loué une tête d'étude, une scène de genre. Ses regards, après avoir erré sur cette vaste toile animée, furent tout à coup saisis par cette figure qui semblait avoir été mise exprès dans un coin du tableau, sous le plus beau jour, comme un personnage hors de toute proportion avec le reste. L'inconnu, rêveur et solitaire, légèrement appuyé sur une des colonnes qui supportent le toit, avait les bras croisés, se tenait penché, comme s'il se fût placé là pour permettre à un peintre de faire son portrait. Quoique pleine d'élégance et de fierté, cette attitude était exempte d'affectation. Aucun geste ne démontrait qu'il eût mis sa face de trois quarts et faiblement incliné sa tête à droite, comme Alexandre, comme Lord Byron et quelques autres grands hommes, dont le seul but d'attirer sur lui l'attention. Son regard fixe suivait les mouvements d'une danseuse en trahissant quelques sentiments profonds. Sa taille svelte et dégagée rappelait les belles proportions de l'Apollon. De beaux cheveux noirs se bouclaient naturellement sur son front élevé. D'un seul coup d'œil, Mademoiselle de Fontaine remarqua la finesse de son linge, la fraîcheur de ses gants de chevreau, évidemment pris chez le bon faiseur, et la petitesse d'un pied bien chaussé dans une botte de peau d'Irlande. Il ne portait aucun de ces ignobles brimborions dont se chargent les anciens petits maîtres de la garde nationale ou les Adonis de comptoir. Non seulement un ruban noir auquel était suspendu son lorgnon flottait sur un gilet d'une coupe distinguée. Jamais la difficile Émilie n'avait vu les yeux d'un homme ombragé par des cils si longs et si recourbés. La mélancolie et la passion respiraient dans cette figure caractérisée par un teint olivâtre et mâle. Sa bouche semblait toujours prête à sourire et à relever les coins de deux lèvres éloquentes. Mais cette disposition, loin de tenir à la gaieté, révélait plutôt une sorte de grâce triste. Il y avait trop d'avenir dans cette tête, trop de distinction dans la personne pour qu'on pût dire « Voilà un bel homme ou un joli homme, on désirait le connaître. » En voyant l'inconnu, l'observateur le plus perspicace n'aurait pu s'empêcher de le prendre pour un homme de talent, attiré par quelque intérêt puissant à cette fête de village. Cette masse d'observations ne coûta guère à Émilie qu'un moment d'attention, pendant lequel cet homme privilégié, soumis à une analyse sévère, devint l'objet d'une secrète admiration. Elle ne se dit pas « Oh, il faut qu'il soit pair de France !» mais « Oh, s'il est noble, il doit l'être !» Sans achever sa pensée, elle se leva tout à coup, alla, suivie de son frère le lieutenant général, vers cette colonne en paraissant regarder les joyeux quadrilles. Mais par un artifice d'optique familier aux femmes, elle ne perdait pas un seul des mouvements du jeune homme de qui elle s'approcha. L'inconnu s'éloigna poliment pour céder la place aux deux survenants et s'appuya sur une autre colonne. Émilie, aussi piquée de la politesse de l'étranger qu'elle l'eût été d'une impertinence, se mit à causer avec son frère en élevant la voix beaucoup plus que le bon ton ne le voulait. Elle prit des airs de tête, multiplia ses gestes et rit sans trop en avoir sujet, moins pour amuser son frère que pour attirer l'attention de l'imperturbable inconnu. Aucun de ces petits artifices ne réussit. Mademoiselle de Fontaine suivit alors la direction que prenaient les regards du jeune homme et aperçut la cause de cette insouciance. Au milieu du quadrille qui se trouvait devant elle, dansait une jeune personne pâle et semblable à ces déités écossaises que Girodet a placé dans son immense composition des guerriers français reçus par Ossian. Émilie crut reconnaître en elle une illustre lady qui était venue habiter depuis peu de temps une campagne voisine. Elle avait pour cavalier un jeune homme de 15 ans, aux mains rouges, en pantalon de nankin, en habit bleu, en souliers blancs, qui prouvait que son amour pour la danse ne le rendait pas difficile sur le choix de ses partenaires. Ses mouvements ne se ressentaient pas de son apparente faiblesse, mais une rougeur légère colorait déjà ses joues blanches, et son teint commençait à s'animer. Mademoiselle de Fontaine s'approcha du quadrille pour pouvoir examiner l'étrangère au moment où elle reviendrait à sa place, pendant que les vis-à-vis répéteraient la figure qu'elle exécutait. Mais l'inconnu s'avança, se pencha vers la jolie danseuse, et la curieuse Émilie put entendre distinctement ces paroles, quoique prononcées d'une voix à la fois impérieuse et douce. « Clara, mon enfant, ne dansez plus !» Clara fut une petite moue boudeuse, inclina la tête en signe d'obéissance et finit par sourire. Après la contredanse, le jeune homme eut les précautions d'un amant en mettant sur les épaules de la jeune fille un châle de cachemire et la fit asseoir de manière à ce qu'elle fût à l'abri du vent. Puis bientôt, Mademoiselle de Fontaine, qui les vit se lever et se promener autour de l'enceinte comme des gens disposés à partir, trouva le moyen de les suivre sous prétexte d'admirer les points de vue du jardin. Son frère se prêta avec une malicieuse bonhomie aux caprices de cette marche assez vagabonde. Émilie aperçut alors ce joli couple montant dans un élégant tilbury que gardait un domestique à cheval et en livrée. Au moment où le jeune homme fut assis et tâcha de rendre les guides égales, Elle obtint d'abord de lui un de ces regards que l'on jette sans but sur les grandes foules. Mais elle eut la faible satisfaction de lui voir retourner la tête à deux reprises différentes, et la jeune inconnue l'imita. Était-ce jalousie? Je présume que tu as maintenant assez observé le jardin, lui dit son frère, nous pouvons retourner à la danse. Je le veux bien, répondit-elle. Croyez-vous que ce soit Lady Dudley? Oh, elle ne sortirait pas sans Félix de Vandenesse, lui dit son frère en souriant. Mais Lady Dudley ne peut-elle pas avoir chez elle des parents? Un jeune homme, oui, reprit le baron de Fontaine, mais une jeune personne, non. Le lendemain, Mademoiselle de Fontaine manifesta le désir de faire une promenade à cheval. Insensiblement, elle accoutuma son vieil oncle et ses frères à l'accompagner dans certaines courses matinales, très salutaires, disait-elle, pour sa santé. Elle affectionnait particulièrement et singulièrement les alentours du village habité par Lady Dudley. Malgré ses manœuvres de cavalerie, elle ne revit pas l'étranger aussi promptement que la joyeuse recherche à laquelle elle se livrait pouvait le lui faire espérer. Elle retourna plusieurs fois au bal de Sceaux, sans pouvoir y retrouver le jeune Anglais tombé du ciel pour dominer ses rêves et les embellir. Quoique rien n'aiguillonne plus le naissant amour d'une jeune fille qu'un obstacle, il y eut cependant un moment où Mademoiselle Émilie de Fontaine fut sur le point d'abandonner son étrange et secrète poursuite, en désespérant presque du succès d'une entreprise dont la singularité peut donner une idée de la hardiesse de son caractère. Elle aurait pu, en effet, tourner longtemps autour du village de Châtenay sans revoir son inconnu. La jeune Clara, puisque tel est le nom que Mademoiselle de Fontaine avait entendu, n'était pas anglaise, et le prétendu étranger n'habitait pas les bosquets fleuris et embaumés de Châtenay. Un soir, Émilie sortit à cheval avec son oncle, qui depuis les beaux jours avait obtenu de sa goutte une assez longue cessation d'hostilité, rencontra Lady Dudley. L'illustre étrangère avait auprès d'elle dans sa calèche Monsieur de Vandenesse. Émilie reconnut le couple et ses suppositions furent en un moment dissipées comme se dissipent les rêves. Dépitée comme toute femme frustrée dans son attente, elle tourna bride si rapidement que son oncle eut toutes les peines du monde à la suivre, tant elle avait lancé son poney. Je suis apparemment devenu trop vieux pour comprendre ces esprits de 20 ans, se dit le marin en mettant son cheval au galop. Ou peut-être la jeunesse d'aujourd'hui ne ressemble-t-elle plus à celle d'autrefois? Mais qu'a donc ma nièce? La voilà maintenant qui marche à petits pas comme un gendarme en patrouille dans les rues de Paris. Ne dirait-on pas qu'elle veut cerner ce brave bourgeois qui m'a l'air d'être un auteur rêvassant à ses poésies, car il a, je crois, un album à la main. Oh, ma foi, je suis un grand sot. Mais ne serait-ce pas le jeune homme en quête de qui nous sommes? À cette pensée, le vieux marin fit marcher tout doucement son cheval sur le sable, de manière à pouvoir arriver sans bruit auprès de sa nièce. Le vice-amiral avait fait trop de noirceur dans les années 1771 et suivantes, époque de nos annales où la galanterie était en honneur, pour ne pas deviner sur le champ qu'Émilie avait par le plus grand hasard rencontré l'inconnu du bal de Sceaux. malgré le voile que l'âge répandait sur ses yeux gris, le comte de Kergaouët sut reconnaître les indices d'une agitation extraordinaire chez sa nièce, en dépit de l'immobilité qu'elle essayait d'imprimer à son visage. Les yeux perçants de la jeune fille étaient fixés avec une sorte de stupeur sur l'étranger qui marchait paisiblement devant elle. « C'est bien ça, » se dit le marin. « Elle va le suivre comme un vaisseau marchand suit un corsaire. Puis quand elle l'aura vu s'éloigner, elle sera au désespoir de ne pas savoir qui elle aime et d'ignorer si c'est un marquis ou un bourgeois. Vraiment, les jeunes têtes devraient toujours avoir auprès d'elles une vieille perruque comme moi. » Il poussa tout à coup son cheval à l'improviste de manière à faire partir celui de sa nièce et passa si vite entre elle et le jeune promeneur qu'il le força de se jeter sur le talus de verdure qui encaissait le chemin. Arrêtant aussitôt son cheval, le comte s'écria « Eh, pouviez-vous pas vous ranger ?»« Oh, pardon, monsieur, » répondit l'inconnu. J'ignorais que ce fût à moi de vous faire des excuses de ce que vous avez failli me renverser. Hé, l'ami, finissons, reprit aigrement le marin, en prenant un ton de voix dont le ricanement avait quelque chose d'insultant. En même temps, le comte leva sa cravache comme pour fouetter son cheval et toucha l'épaule de son interlocuteur en disant « Le bourgeois libéral est raisonneur, tout raisonneur doit être sage. » Le jeune homme gravit le talus de la route en entendant ce sarcasme. Il se croisa les bras et répondit d'un ton fort ému « Monsieur, je ne puis croire en voyant vos cheveux blancs que vous vous amusiez encore à chercher des duels. » Cheveux blancs ? S'écria le marin en l'interrompant. Tu en as menti, Pantagorge, ils ne sont que gris. Une dispute ainsi commencée devint en quelques secondes si chaude que le jeune adversaire oublia le ton de modération qu'il s'était efforcé de conserver. Au moment où le comte de Kergaouët vit sa nièce arrivant à deux avec toutes les marques d'une vive inquiétude, il donnait son nom à son antagoniste en lui disant de garder le silence devant la jeune personne confiée à ses soins. L'inconnu ne put s'empêcher de sourire et remit une carte au vieux marin en lui faisant observer qu'il habitait une maison de campagne à Chevreuse et s'éloigna rapidement après la lui avoir indiquée. « Vous avez manqué blesser ce pauvre Pékin, ma nièce, » dit le comte, en s'empressant d'aller au-devant d'Émilie. « Vous ne savez donc plus tenir votre cheval en bride ? Vous me laissez là compromettre ma dignité pour couvrir vos folies, tandis que si vous étiez resté à un seul de vos regards ou une de vos paroles polies, une de celles que vous dites si joliment quand vous n'êtes pas impertinente, aurait tout raccommodé, lui, et si vous cassez le bras. Eh, mon cher oncle, c'est votre cheval et non le mien qui est la cause de cet accident. Oh, je crois en vérité que vous ne pouvez plus monter à cheval. Vous n'êtes déjà plus si bon cavalier que vous l'étiez l'année dernière. Mais au lieu de dire des riens, diantre des riens, ce n'est donc rien que de faire une impertinence à votre oncle. « Ne devrions-nous pas aller savoir si ce jeune homme est blessé ? Il boite, mon oncle, voyez donc. »« Non, il court. Oh, j'ai rudement m'origéné. »« Ah, mon oncle, je vous reconnais là. »« Halte là, ma nièce, » dit le comte en arrêtant le cheval d'Émilie par la bride. « Je ne vois pas la nécessité de faire des avances à quelque boutiquier trop heureux d'avoir été jeté par terre » par une charmante jeune fille ou par le commandant de la belle poule. Mais pourquoi croyez-vous que ce soit un roturier, mon cher oncle? Il me semble qu'il a des manières fort distinguées. Oh, tout le monde a des manières aujourd'hui, ma nièce. Non, mon oncle, tout le monde n'a pas l'air et la tournure que donne l'habitude des salons. Et je parierais avec vous volontiers que ce jeune homme est noble. Vous n'avez pas trop eu le temps de l'examiner. Mais non, ce n'est pas la première fois que je le vois. C'est pas non plus la première fois que vous le cherchez, lui répliqua l'amiral en riant. Émilie rougit, son oncle se plut à la laisser quelque temps dans l'embarras, puis il lui dit: Émilie, vous savez que je vous aime comme mon enfant, précisément parce que vous êtes la seule de la famille qui ayez cet orgueil légitime que donne une haute naissance. Diantre, ma petite nièce, tu aurais cru que les bons principes deviendraient si rares? Eh bien, je veux être votre confident. Ma chère petite, je vois que ce jeune gentilhomme ne vous est pas indifférent. Chut, il se moquerait de nous dans la famille si nous nous embarquions sous un méchant pavillon. Vous savez ce que cela veut dire. Ainsi, laissez-moi vous aider, ma nièce. Gardons-nous tous deux le secret. Je vous promets de l'amener au milieu du salon. Et quand, mon oncle? Demain. Mais, mon cher oncle, je ne serai obligé à rien. Oh, à rien du tout. Et vous pourrez le bombarder, l'incendier, et le laisser là comme une vieille carafe, si cela vous plaît. Ce ne sera pas le premier, n'est-ce pas? Êtes-vous bon, mon oncle? Aussitôt que le comte fut rentré, il mit ses besicles, tira secrètement la carte de sa poche et lut Maximilien Longueville, rue du Sentier. Soyez tranquille, ma chère nièce, dit-il à Émilie. Vous pouvez le harponner en toute sécurité de conscience. Il appartient à l'une de nos familles historiques et, s'il n'est pas pair de France, il le sera infailliblement. Mais d'où savez-vous tant de choses? C'est mon secret. Vous connaissez donc son nom? Le comte inclina en silence sa tête grise, qui ressemblait assez à un vieux tronc de chêne autour duquel revoltigeaient quelques feuilles roulées par le froid d'automne. À ce signe, sa nièce vint essayer sur lui le pouvoir toujours neuf de ses coquetteries. Instruite dans l'art de cajoler le vieux marin, elle lui prodigua les caresses les plus enfantines, les paroles les plus tendres. Elle alla même jusqu'à l'embrasser afin d'obtenir de lui la révélation d'un secret si important. Le vieillard, qui passait sa vie à faire jouer à sa nièce ces sortes de scènes, et qui les payait souvent par le prix d'une parure ou par l'abandon de sa loge aux Italiens, se complut cette fois à se laisser prier et surtout caresser. Mais, comme il faisait durer ses plaisirs trop longtemps, Émilie se fâcha, passa des caresses au sarcasme et bouda. Puis elle revint, dominée par la curiosité. Le marin diplomate obtint solennellement de sa nièce une promesse d'être à l'avenir plus réservée, plus douce, moins volontaire, et de dépenser moins d'argent, et surtout de lui tout dire. Le traité conclu et signé par un baiser qu'il déposa sur le front blanc d'Émilie, il l'amena dans un coin du salon, l'assit sur ses genoux, plaça la carte sous ses deux pouces de manière à la cacher, découvrit lettre à lettre le nom de Longueville, et refusa fort obstinément d'en laisser voir davantage. Cet événement rendit le sentiment secret de Mademoiselle de Fontaine plus intense. Elle déroula pendant une grande partie de la nuit les tableaux les plus brillants des rêves par lesquels elle avait nourri ses espérances. Enfin, grâce à ce hasard imploré si souvent, elle voyait maintenant tout autre chose qu'une chimère à la source des richesses imaginaires avec lesquelles elle dorait sa vie conjugale. Comme toutes les jeunes personnes ignorant les dangers de l'amour et du mariage, elle se passionna pour les dehors trompeurs du mariage et de l'amour. N'est-ce pas dire que son sentiment naquit, comme naissent presque tous les caprices du premier âge, douces et cruelles erreurs qui exercent une si fatale influence sur l'existence des jeunes filles assez inexpérimentées, pour ne s'en remettre qu'à elles-mêmes du soin de leur bonheur à venir? Le lendemain matin, avant qu'Émilie fût réveillée, son oncle avait couru à Chevreuse. En reconnaissant dans la cour d'un élégant pavillon le jeune homme qu'il avait si résolument insulté la veille, il alla vers lui avec cette affectueuse politesse des vieillards de l'ancienne cour. « Eh, mon cher monsieur, qui aurait dit que je me ferais une affaire à l'âge de 73 ans avec le fils ou le petit-fils d'un de mes meilleurs amis? Je suis vice-amiral, monsieur. N'est-ce pas vous dire que je m'embarrasse aussi peu d'un duel que de fumer un cigare ?» Dans mon temps, deux jeunes gens ne pouvaient devenir intimes qu'après avoir vu la couleur de leur sang. Mais, ventre de biche, hier j'avais en ma qualité de marin embarqué un peu trop de rhum à bord. J'ai sombré sur vous. Allez toucher là. J'aimerais mieux recevoir 100 rebuffades d'un Longueville que de causer la moindre peine à sa famille. Quelque froideur que le jeune homme s'efforça de marquer au comte de Kergarouët, il ne put longtemps tenir à la franche bonté de ses manières et se laissa serrer la main. « Vous alliez monter à cheval, dit le comte, vous gênez pas, mais à moins que vous n'ayez les projets. Venez avec moi, je vous invite à dîner aujourd'hui au pavillon Planard. Mon neveu, le comte de Fontaine, est un homme essentiel à connaître. Oh, je prétends morbleu, vous dédommagez de ma brusquerie en vous présentant à 5 des plus jolies femmes de Paris. Jeune homme, oh, votre front se déride. J'aime les jeunes gens, et j'aime à les voir heureux. Leur bonheur me rappelle les bienfaisantes années de ma jeunesse, où les aventures ne manquaient pas plus que les duels. On était gais, alors. Aujourd'hui, vous raisonnez et l'on s'inquiète de tout, comme s'il n'y avait eu ni 15e ni 16e siècle. Mais, monsieur, n'avons-nous pas raison? Le 16e siècle n'a donné que la liberté religieuse à l'Europe, et le 19e lui donnera la liberté... Oh, ne parlons pas politique. Je suis une ganache d'ultra, voyez-vous, mais j'empêche pas les jeunes gens d'être révolutionnaires, pourvu qu'ils laissent au roi la liberté de dissiper leurs attroupements. À quelques pas de là, lorsque le comte et son jeune compagnon furent au milieu des bois, le marin avisa un jeune boulot assez mince, arrêta son cheval, prit un de ses pistolets et la balle alla se loger au milieu de l'arbre à 15 pas de distance. « Vous voyez, mon cher, que je ne crains pas un duel, » dit-il avec une gravité comique en regardant M. Longueville. « Ni moi non plus, » reprit ce dernier, qui arma promptement son pistolet, visa le trou fait par la balle du comte et plaça la sienne près de ce but. Voilà ce qui s'appelle un jeune homme bien élevé, s'écria le marin avec une sorte d'enthousiasme. Pendant la promenade qu'il fit avec celui qu'il regardait déjà comme son neveu, il trouva mille occasions de l'interroger sur toutes les bagatelles dont la parfaite connaissance constituait, selon son code particulier, un gentilhomme accompli. Avez-vous des dettes? Demanda-t-il enfin à son compagnon, après bien des questions. Oh non, monsieur. Comment, vous payez tout ce qui vous est fourni? Exactement, monsieur. Autrement, nous perdrions tout crédit et toute espèce de considération. Mais au moins, vous avez plus d'une maîtresse. Ah, vous rougissez, mon camarade. Les mœurs ont bien changé. Avec ces idées d'ordre légal, de kantisme et de liberté, la jeunesse s'est gâtée. Vous n'avez ni Guimard, ni Duthé, ni créancier, vous ne savez pas le blason. Mais mon jeune ami, alors vous n'êtes pas élevé. Sachez que celui qui ne fait pas ses folies au printemps les fait en hiver. Si j'ai 80 000 livres de rente à 70 ans, c'est que j'en ai mangé le capital à 30 ans. Oh, avec ma femme, en tout bien, tout honneur. Néanmoins, vos imperfections ne m'empêcheront pas de vous annoncer au pavillon Planard. Songez que vous m'avez promis d'y venir et que je vous y attends. Quel singulier petit vieillard, se dit le jeune Longueville. Il est vert et gaillard. Mais, quoiqu'il veuille paraître bonhomme, je le méfierais pas.